Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution. Alors aujourd'hui, nous recevons Ale McKenna. Ale McKenna, bonjour.
Salut Philippe.
Ale, vous êtes journaliste depuis plus de 25 ans. Vous avez exploré une panoplie de sujets, des finances personnelles jusqu'à l'automobile. Et la technologie, bien sûr, qui est la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui. Vous avez écrit pour Le Devoir, Journal de Montréal et La Presse, notamment, mais plusieurs autres. Vous avez été récipiendaire en 2010 du prix national de l'innovation pour l'excellence dans le journalisme scientifique et technique. Et une douzaine de livres également, pas que sur la tech d'ailleurs, beaucoup sur le voyage et les bières aussi, ce qui va toujours très bien ensemble. Aujourd'hui, bon, vous êtes un incontournable dans le journalisme, dans le milieu de la technologie au Québec. Donc, en premier lieu, comme je... Vous avez écrit sur différents sujets, mais pourquoi aujourd'hui vous spécialisez dans la technologie?
Ben, c'est. Écoute, spécialiser, c'est un bien grand terme. Quand j'étais à l'université, c'était au début de l'Internet. Et on étudiait les communications. Et un des penseurs, en fait, finalement, je me rends compte maintenant, a défini la façon dont je vois la technologie, c'est Marshall McLuhan, qui à l'époque était souvent utilisé à l'université pour parler des. Parce que lui, son expression. Fétiche, c'était le village global. Et avec l'émergence d'Internet, on pensait que ça allait être ce fameux village global, mais en relisant ce qu'il écrivait, ce qu'on comprend, c'est que pour lui, les technologies, c'est l'extension des sens humains. Donc, l'automobile, l'extension du pied, parce que ça permet de marcher plus loin. Les technologies de la télévision, c'est l'extension de notre vision, puisqu'on peut voir plus loin. La radio, c'est l'extension de notre oreille, puis ainsi de suite. Donc, pour moi, tout ce qui est technologie, en fait, c'est les moyens pour l'humain de faire des choses, mais de façon plus efficace ou de façon amplifiée, en fait. Et comme on vit une époque où il n'y a rien qui n'est pas technologique, ben, je pense que ça reste très général comme champ comme champ d'étude et ça permet de faire de toucher à tout, en fait, à travers l'angle, justement, de la technologie.
Mais quand on parle de tech, souvent, on se base sur notre propre expérience subjective, là, bien sûr, mais bon, j'ai 40 ans. Donc, je suis passé une télé en noir et blanc quand j'étais très petit à la maison. À une ère où tout se passe virtuellement, où les écrans sont maintenant omniprésents, on avait un Commodore 64, c'est notre premier ordinateur à la maison. Et là, les télécommunications sont devenues, comme je dis, omniprésentes, pas gratuites, mais disons... incroyable dans leur capacité à un prix qui est quand même assez dérisoire, somme toute. Là, maintenant, l'intelligence artificielle fait des choses et ça ne fait que commencer, mais qui sont assez incroyables, elles aussi. Pouvons-nous réellement imaginer et visualiser à quoi le monde ressemblera dans une perspective de 5, 10, peut-être même 20 ans d'un point de vue technologique?
C'est une excellente question. C'est sûr que si on avait prédit il y a 10 ans ce qui allait se passer aujourd'hui, on n'aurait jamais pu. Hein, parce que même il y a 10 ans, c'était en plus avant une pandémie qui a transformé. Et bien des gens disaient que ça a accéléré, en fait, une évolution qui se serait faite en 10-15 ans. Mais ça l'a fait en 3 ans. On a, entre autres choses, redécouvert le télétravail. On a accéléré le virage vers les technologies numériques au travail, principalement à l'école aussi. On a fait entrer la technologie dans la santé. La télésanté est devenue un truc hyper banal de nos jours. C'était impossible à imaginer il y a 5 ans. Et là, tu le dis, l'intelligence artificielle a eu un sursaut d'intérêt là, dans les derniers mois avec l'intelligence artificielle générative, qui est un outil parmi tant d'autres dans l'intelligence artificielle. Donc, de prédire dans 10 ans où ça s'en va, le plus grand... Il y a deux différentes choses qu'on peut dire. C'est que à très court terme, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet de ressac, là. On le voit surtout en Europe, mais ça se discute partout dans le monde. On essaie maintenant de reprendre le contrôle sur cet essor de technologie numérique, notamment les réseaux sociaux, notamment justement l'intelligence artificielle et plein d'autres trucs qui défient un peu les cadres juridiques, les cadres législatifs, le modèle qui était relativement entendu. Et on voit les écarts, notamment avec les écarts de richesse qui s'élargissent de plus en plus et qui sont liés de près à l'essor des technologies, parce que les hommes les plus riches sur la planète sont des gens qui ont misé fort sur les technologies dans la grande majorité. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, c'est des gens qui ont fait de l'argent dans ces créneaux-là. Là. Donc, dans les 10 prochaines années, j'ai l'impression qu'on va se re-questionner, parce que là, c'est moins nouveau maintenant, l'espèce de poussière est retombée. Et on risque de peut-être revoir un petit retour du balancier pour retrouver un certain équilibre, parce que c'est pas tenable. On voit les écarts de richesse, on voit comment les gens pauvres sont de plus en plus pauvres. Il y a des solutions, mais ça s'adresse à un public très niche. Donc, peut-être que les 10 prochaines années, c'est cette, disons, démocratisation, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais cette ouverture de ces services-là à un plus grand nombre qui va être la norme, ce qui serait souhaitable, parce que clairement, de plus en plus, le fossé qui sépare les gens qui ont accès à ça, les gens qui n'ont pas accès, c'est leur lieu.
J'aimerais prendre une seconde pour interrompre cet entretien pour simplement vous rappeler de, s'il vous plaît, vous abonner, partager, liker, aimer. C'est la forme de rémunération principale, à peu près unique, d'un balado comme celui-ci. Donc, si vous pouviez faire la chose, donc, comme j'ai dit, le partager, abonner, liker, en parler à vos amis, tout simplement, ça serait grandement apprécié. Et sur ce, de retour à l'entretien. Merci.
En fait, je voulais y venir plus tard, mais bon, on aborde la question de la richesse. Il y a toujours eu des plus riches et des plus pauvres en société. Ceci dit, j'ai l'impression, mon impression est similaire à la vôtre, dans le sens où, depuis les années 90-2000 en particulier, bon, j'ai mentionné Jeff Bezos et Mark Zuckerberg et compagnie, on a l'impression que les fortunes maintenant sont top scène pour les grands de la tech. Et ça se concentre dans un nombre de mains assez limité. J'ai l'impression, c'est une impression encore une fois, là, mais que l'intelligence artificielle pourrait mener à une classe de Uber Rich, comme on pourrait dire en anglais, de Jack. C'est extrêmement fortuné, mais l'écart serait absolument béant entre même les gens riches et eux. Tellement que ça serait énorme. Bon, venez d'en parler un peu. Comment est-ce que vous entrevoyez la chose en sens où on peut l'éviter ou est-ce que c'est inévitable? C'est peut-être un résultat inévitable de l'avancée technologique. Il y a peu de gens qui la maîtrisent vraiment et donc ces gens-là vont, comment dire, avoir une influence disproportionnée sur l'économie?
Bien, c'est sûr que le modèle actuel n'est pas soutenable. Donc, éventuellement, l'élastique va péter, il va se passer quelque chose et le modèle va changer. On vit en ce moment, et c'est peut-être le début de la fin parce qu'on le voit avec l'émergence de l'intelligence artificielle, mais le modèle de lancement d'entreprise, le modèle dans lequel l'économie connaît le plus de succès en ce moment, c'est le modèle inspiré de la Silicon Valley, c'est du capital privé qui finance des startups, qui font des projets, en anglais, de disruption, donc qui viennent perturber des modèles d'affaires. Ça a été ce modèle-là depuis 15 ans qui a nourri la plus grande partie de la croissance économique. Les technologies numériques, les GAFAM, toutes ces entreprises-là, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont essentiellement déplacé la richesse vers des modèles numériques. Et l'intelligence artificielle exacerbe ça, parce que pour se lancer en intelligence artificielle, c'est pas moi qui le dis, c'est des experts dans le créneau aux États-Unis, mais en Europe aussi. C'est que ça coûte tellement cher que même aujourd'hui, le modèle qui consiste à lancer une start-up et à trouver un peu de capital est extrêmement compliqué parce que ça demande des milliards là où ça demandait des millions. Et il n'y a pas grand endroit dans le monde où on peut se faire capitaliser en milliards de dollars ou en plusieurs centaines de millions quand on a simplement l'idée, on n'a pas encore un modèle en place. Et ces places-là, je pense qu'il y en a peut-être deux. Il y a peut-être en Europe, il y a peut-être en Silicon Valley encore, mais c'est de moins en moins accessible pour les rêveurs, les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer. Donc, on sent qu'on arrive à la fin d'un cycle par rapport à ça. Dans l'actualité présente, c'est un beau cas d'espèce et on ne le voit pas sous cette lunette-là, mais ce qui se passe avec Northvolt, c'est exactement ça. C'est une start-up qui a été capitalisée très rapidement avec un très haut montant d'argent, mais dans un créneau où la production de biens matériels, ça coûte encore plus cher pour se lancer en affaires et il y a très peu d'entreprises qui la réussissent. Par exemple, le secteur connexe, le secteur d'automobile, il y aurait pas mal plus que Tesla qui aurait percé l'industrie en 40 ans. Là. Donc oui, c'est difficile et ça exacerbe, ça polarise, ça crée des extrêmes de plus en plus éloignés où les gens qui ont du succès sont très riches et les gens qui en ont moins sont moins riches. Mais on sent que ça ne pourra pas durer parce que les gens qui veulent atteindre ce succès-là, cette richesse-là, demandent de plus en plus d'argent et à un moment donné, il n'y en aura juste plus. Donc on ne pourra plus soutenir ce modèle-là, il faudra en trouver un autre. Et évidemment, il faudra le trouver parce qu'il n'existe pas encore. Ou s'il existe, il n'est pas encore évident, disons ça comme ça.
On a aussi l'impression qu'on écoute les experts ou le discours public, le discours généraliste autour de la question de l'intelligence artificielle, qu'en fait, on contrôle pas l'intelligence artificielle dans le sens où son développement, son amélioration semble nous échapper. On est capable de dire, est-ce qu'on veut vraiment faire telle ou telle chose? Et on dit qu'au final, c'est les gens qui mènent le développement de l'intelligence artificielle qui ne veulent pas arrêter. Alors, sommes-nous vraiment en contrôle des avancées technologiques?
Ben non, parce que par définition, en ce moment, la technologie vise à révolutionner ou à transformer des secteurs qui sont déjà établis, mais qui ont déjà une façon de faire. et ça transforme en faisant une, en appliquant une nouvelle façon qui, bon, peu importe la façon comme telle, mais en principe, ça en rendant plus efficace et en dégageant plus d'énergie, plus de synergie. L'intelligence artificielle, un des gros problèmes, c'est qu'on appelle intelligence artificielle à peu près n'importe quoi qui vient avec un algorithme, alors que ce n'est pas toujours de l'intelligence artificielle. Mais ce sont aussi un paquet d'applications, un paquet d'outils complètement séparés les uns des autres. En santé, la vision par ordinateur, la façon qu'on peut traiter des images grâce à un système qui est des dizaines de milliers de fois plus précis que l'œil d'un médecin spécialiste, c'est un truc. Les outils de langage, comme on voit avec ChatGPT, qui sont des outils probabilistes, qui sont des simulateurs de langage, c'est même pas de l'intelligence, c'est purement une suite de mots qui probablement ressemble à quelque chose qui fait du sens basé sur ce que l'intelligence artificielle a avalé comme information précédemment. C'est une forme d'application de l'intelligence artificielle. Évidemment, quand on met tout ça ensemble dans un gros pot, ça devient mêlant parce qu'on a l'impression que c'est une grosse machine qui fait tout, mais il n'y a pas une grosse machine qui fait tout. Il n'y a que des applications ensemble qui font plein de trucs séparés. Maintenant, est-ce qu'on doit encadrer ça, effectivement? Parce qu'on le voit, il y a des cas où... Et puis l'exemple le plus frappant, c'est celui, évidemment, de l'intelligence artificielle générative. C'est qu'on peut, à partir d'un modèle comme celui-là, qui sont tous accessibles gratuitement sur Internet, on peut les télécharger, c'est de l'open source. On peut générer du faux texte, des fausses images, des fausses vidéos, du faux contenu. Et là, c'est là où ça dérape et c'est là où ça devient un risque de ce côté-là. En fait, ce que ça dit, ça, c'est que là où on perd le contrôle, c'est quand justement on se fie trop à la machine. Et ça, on peut même parler de la voiture autonome, qui est une forme, en principe, en tout cas, d'intelligence artificielle. Si on laisse la machine prendre les décisions, à la fin de la journée, la personne qui sera responsable n'aura pas pris de décision. Donc, le principal problème est là, c'est qu'on pense que l'intelligence artificielle est une intelligence, ce qui n'est pas le cas encore.
Mais je pensais aussi à un... Bon, c'est exagéré, là, mais peut-être.
C'est exagéré.
Et je pensais à un scénario Terminator dans le sens où on pousse cette technologie, malgré les risques qui viennent. Je pense un peu aux ingénieurs nucléaires. Dernièrement, le film Oppenheimer aborde la question. Ces gens-là, ils ont pensé avant, les scientifiques qui ont conçu la première bombe atomique. On est en train d'ouvrir la boîte de Pandore et pourtant, ils sont allés de l'avant. Et avec l'intelligence artificielle, je ne vais pas tomber dans le catastrophisme, mais il y a quand même un discours là, qui s'y est associé. Elon Musk était connu pour avoir donné de vrai... pas Elon Musk, mais c'était Joshua Bengio, pardon, qui avait demandé un moratoire, qu'on signe quelque chose, les entreprises, les gouvernements du monde, pour simplement évaluer exactement où est-ce que ça va, ce qui implique qu'on ne sait pas exactement comment les choses se développent et qu'il y a une course à l'armement en termes d'intelligence artificielle.
Ouais.
Il n'y a pas un danger catastrophique, en fait. Je dis apocalyptique, mais allons-y. Je trouve la logique. Il n'y a pas un danger apocalyptique là-dedans.
Ben oui, il y a un danger. Il est grave. Cela dit, ce n'est pas le seul danger. Il faut pas. On peut faire quelques parallèles. Tu parles du nucléaire. Le nucléaire peut être une puissante arme de destruction, mais ça peut aussi générer de l'électricité, alimenter plein de foyers en électricité. Bon, évidemment, on va débattre sur les effets polluants du nucléaire jusqu'à dans 10 000 ans, là, parce que c'est le temps que ça prend, mais cette technologie, donc, c'est une solution à un problème qui vient avec sa part d'ombre. Les voitures à essence existent depuis 100 ans. Les pétrolières savent depuis 50 ans que ce qu'elles font, ça va finir par tuer le climat et elles n'ont rien fait pour agir. Mais pourtant, on peut désormais travailler, se déplacer, faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, la voiture est aussi quelque chose qui est un peu, dans le fond, catastrophique, mais il y a des bénéfices. Un exemple qui est souvent utilisé pour illustrer ce qu'on pourrait faire avec l'intelligence artificielle pour bien l'encadrer, c'est le secteur de la santé où Santé Canada et d'autres organismes similaires dans d'autres pays dans le monde préapprouvent des médicaments pour qu'ils deviennent accessibles par le public. Donc, il y a tout un processus d'homologation qui se fait en plusieurs étapes avant qu'un médicament se trouve sur les tablettes en pharmacie. Et quand c'est pas homologué, ben il faut retourner au laboratoire, il faut retrouver et refaire le développement. Donc, il y a toute cette chaîne qui valide certaines, en anglais, on dit drogues, le parallèle est encore plus fun parce que malgré qu'on trouve là des drogues donc qui sont légales après une série de tests, la drogue est un fléau au sens très large. Les opioïdes, tous les trucs chimiques, les trucs de synthèse qui sont aujourd'hui, qui tuent des jeunes partout dans le monde de façon incroyable, c'est la part d'ombre de ce secteur-là. Toute la pharmacologie, sa part d'ombre, ben, c'est tout le reste qui se fait, qui n'est pas légal. Donc, tout ce qu'on fait, dans le fond, vient avec son côté négatif, son risque, c'est le côté vraiment sombre de la chose. Et dans tous les cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un cadre. Et à partir de là, bien, on chasse, on pourchasse évidemment les gens qui sont qui ont des intentions malicieuses. Donc, l'intelligence artificielle reste un outil. Faut évidemment attribuer une responsabilité aux applications, donc qui l'utilise et à quelle fin. Et ce sont ces gens-là qu'il faut trouver le moyen de d'encadrer de cette façon. Ben oui, c'est de leur dire, hey, faut, c'est pas comme ça que ça marche, on fait pas ça. Le risque avec l'intelligence artificielle, c'est que les outils actuellement mis en marché, il y en a qui sont gratuits sur Internet, qui peuvent devenir ce que Joshua appelait des rogue AI, donc des outils qui ne seront jamais encadrables par la loi ou par peu importe le cadre auquel on peut penser et qui vont être utilisés justement à des fins malicieuses. Mais je veux dire, le courriel est un état en soi, il y a le même problème, les réseaux sociaux ont le même problème. Ce n'est qu'un parmi tant d'autres d'exemples là, où on peut justement faire des belles choses, mais des choses moins le fun. Et il faut effectivement qu'à un moment donné, là, on définisse un cadre et dire voici comment on doit développer ces outils-là pour qu'on minimise les risques et on ne nuise pas quand même aux bénéfices que ça peut apporter. Là.
Alors, vous prenez que là, si je me rappelle bien.
Oui.
Donc, est-ce que ça, la technologie de ce point de vue-là va changer fondamentalement notre propre définition de ce qu'est l'humanité, ce qu'est d'être humain? Et que pensez-vous en fait de l'augmentation de l'humanité?
C'est un beau sujet.
L'augmentation, c'est pas quelque chose. J'ai écrit sur le transhumanisme, mais ça fait longtemps, par contre, 10 ans. J'appelle ça la fusion de la machine et de l'homme pour augmenter un peu ce que l'homme peut devenir en termes de cognition, en termes de peut-être vivre très vieux, en termes d'améliorer sa santé.
Ouais.
Et tout ça avec une espèce de fusion par la machine. Mais qu'est-ce que vous en pensez en gros?
Ben, c'est une. Disons que c'est poussé à l'extrême ce qu'on fait depuis toujours. Hein. On veut vivre plus vieux, on veut vivre en santé, on veut apprendre plus. Et là, on se dit, ben là, depuis je sais pas, des millions d'années, on trouve des outils externes à l'humain, dans le fond, pour y arriver. Et là, on se dit, ben maintenant qu'on a des trucs assez petits et assez fonctionnels, on peut les implanter et vraiment arriver avec un espèce de surhumain. Ça fait rêver les gens qui ont les moyens de rêver à ces choses-là. Je pense, écoute, il y a des choses qui pourraient. En découler, qui pourrait arriver puis effectivement être fonctionnel. Je voyais il n'y a pas longtemps des gens qui ont tiré l'équivalent d'une rétine numérique. C'est une forme de transhumanisme. On peut arriver puis dire, ben voilà, tout d'un coup, on règle un problème grave, des gens qui ont des problèmes de vision et pouf. Est-ce qu'on peut se servir de ça pour, par exemple, étirer la vie? Et là, le transhumanisme, en fait, vu le courant politique du moment, il y a des gens qui pensent qu'on peut même faire des transfusions sanguines à perpétuité puis vivre plus longtemps. Donc, on vire clairement dans la science-fiction dans des affaires qui sont probablement très dégueulasses, à la limite. Et on a à peu près à mi-chemin entre les deux, on a un gars comme Elon Musk qui, lui, pense qu'on peut s'implanter des puces dans le cerveau. Et lui, ce qu'il dit, c'est que c'est le meilleur moyen, ce serait peut-être même le seul moyen de devenir concurrentiel en tant qu'humain contre d'autres espèces. Et là, ils pensent évidemment aux robots et à l'intelligence artificielle. Donc, on crée le problème, puis on crée un autre problème en pensant que ça va être la solution. Je pense que c'est une idée avec laquelle il faut jouer. C'est vraiment un concept qui permet de réfléchir sur où est-ce qu'on veut aller avec ce qu'on fait en ce moment, parce qu'on miniaturise tout et on rend tout extrêmement puissant. Tu sais, le téléphone intelligent, aujourd'hui, il fait des choses qu'on ne faisait pas il y a 25 ans. Là. On peut faire plein de trucs partout, peu importe où on est, dans tout temps. On ne l'a juste pas encore dévissé dans le cerveau, mais on le regarde tellement souvent qu'on est presque rendu là, en fait. Donc, c'est pas loin le jour où quelqu'un va l'essayer pour vrai, puis on verra où ça nous mène, mais c'est pas... je pense que c'est plus un exercice intellectuel que d'imaginer ce que ça pourrait devenir. Et ensuite, on pourrait imaginer aussi ce que ça va faire de bien et de moins bien, parce qu'on le sait, dès qu'on invente une nouvelle technologie, on voit les aspects positifs, mais on voit aussi les applications négatives, puis ça inquiète toujours un peu. Donc, il faut effectivement y penser, peut-être en décliner de ça des choses qui pourraient être applicables pour vrai, mais ne pas non plus verser dans le l'ultra-positivisme en pensant que ça va tout régler, là, parce que clairement, ça va créer sa suite de problèmes aussi si ça arrive. Donc, ce sera pas l'espèce de panacée que ses promoteurs veulent bien faire. Là.
Ouais. L'histoire des transfusions sanguines, j'avais lu quelque chose rapidement. Là, c'était que la théorie étant qu'on pourrait remplacer, j'imagine que le bassin de sang qu'on a avec des transfusions et vivre éternellement.
Ben écoute, exactement le détail, je ne me rappelle pas, mais je sais que c'est des gens de la Silicon Valley, eux encore, et les milliardaires, entre autres, qui pensent à ça, qui essaient des choses. En tout cas, ça doit être plus compliqué que juste des transfusions sanguines, mais il y a cette... Il y a un autre courant pas loin du transhumanisme qui consiste à penser que l'humanité est foutue. La pollution, la surpopulation, on regarde ça comme on veut. Ça va mal. Et ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent à ces trucs-là de transhumanisme. Ils pensent à s'acheter un bunker parce qu'ils sont milliardaires, donc ils ont les moyens de s'acheter une île privée puis de creuser un trou. Et ils se disent, on va passer à la... On va attendre que l'humanité s'effondre. Et nous, on existera toujours plus tard parce qu'on aura pensé à se protéger. Et c'est pas tellement loin de ce qui motive Elon Musk, à aller sur Mars, parce qu'il dit, on a scrappé la Terre avec ce qu'on fait, alors essayons d'explorer Mars et de voir si on ne pourrait pas créer une meilleure communauté humaine là-bas. Et tout ça vient de ça, de ce mouvement de dire, la solution à notre problème, c'est d'aller de sauver nos problèmes et d'attendre que ça passe. Et c'est ce qui motive ces courants-là. Là.
Comment dire, on découvre aussi là, aujourd'hui, on a parlé des conséquences négatives et positives, surtout des nouvelles technologies, sur nos structures sociales, que ce soit au niveau du travail, ou même du dating, pour avoir lu quelques articles sur le sujet, on commence à peine à comprendre exactement l'impact que les applications de dating ont sur la structure de relations qui se forment au sein de la société. Apparemment, ça va beaucoup plus loin qu'un simple swipe à droite ou à gauche. Et donc, ça change fondamentalement nos interactions interpersonnelles. Risque-t-on de perdre contact avec la réalité à mesure que le virtuel s'immisce et prend de l'ampleur dans nos vies respectives?
C'est une bonne question.
C'est peut-être des questions, en fait.
Pour l'instant, ça éclate la réalité, mais on ne perd pas le contact dans la mesure où tout ce qu'on développe en termes de technologie, c'est pour mieux communiquer avec d'autres, en fait. On a longtemps eu peur que le jeu vidéo allait isoler les gens dans leur sous-sol, alors qu'on s'est rendu compte que ce que la plupart des gens font en jeu vidéo, c'est jouer en communauté pour garder le contact et pour communiquer avec le langage propre au jeu vidéo, mais quand même, les réseaux sociaux ont tous leurs défauts, mais essentiellement, on veut communiquer. Les applications de rencontre servent à se rencontrer, nécessairement. Et c'est sûr que dans un contexte où ça nous détache de l'interface physique, on a un spectre de possibilités. C'est-à-dire qu'on peut se présenter comme on veut bien se présenter d'une façon qui est pas mal plus éclatée que quand on se rencontre dans la rue. Donc, effectivement, ça ouvre des portes. Il y aura des abus, nécessairement. Les réalités virtuelles, les environnements de réalité virtuelle, c'est encore extrêmement naissant. Donc, il n'y a pas vraiment de cas d'espèce où on se dit, voici ce qui s'en vient précisément, parce que à peu près tout est essayé. Mais il y aura certainement des environnements dans lesquels on va aller beaucoup plus loin que la réalité dans la façon dont on interagit avec les objets, qu'ils soient virtuels autour de soi ou pas. Mais on n'est pas encore là. Quand on regarde ces environnements-là, encore une fois, ils servent à rapprocher des gens qui sont éloignés. Donc, c'est souvent des applications, que ce soit des applications de jeu, de travail ou peu importe, mais ces environnements-là servent à rencontrer d'autres gens qui sont loin pour faire des activités quelconques. Donc, j'ai l'impression que ça renforce, à sa façon, là, évidemment, les liens qui unissent les gens. Mais à la niveau de qualité de ces liens-là est à discuter, parce que ce n'est pas toujours des liens très positifs, mais quand même, on a la base de toutes ces technologies-là, c'est ce besoin de communiquer avec d'autres. Donc, je ne pense pas qu'on va se sortir de la communauté humaine avec les technologies, mais je pense qu'on va certainement éclater le modèle très basique là, qui existait avant l'arrivée des technologies de communication.
Il y a un paradoxe où on est à une heure où il n'y a jamais eu autant de communication, du moins de moyens de communication. Mais quand j'y pense, on parle de crise de la solitude. Je crois que le Royaume-Uni a créé un ministère de la solitude, tellement le problème était exacerbé dans ce pays. C'est pas paradoxal dans le sens qu'on parle, on se dit maintenant en communication quasi permanente avec tout le monde, mais on s'est jamais senti aussi isolé.
Il y a peut-être qu'on devrait apprendre à mieux communiquer parce que c'est ça, on a une abondance d'outils de communication, d'outils d'information. Puis ce qu'on voit, c'est que, comme tout le reste, quand on en abuse, ça crée des déviations à l'information. On n'a jamais été aussi informé et en même temps, on est de plus en plus désinformé. Donc, il y a peut-être une façon d'apprendre à utiliser les outils pour s'informer de la bonne façon. Peut-être que la chose vaut pour plein d'autres choses. Vous dire, souvent, en communication, on oublie que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que quand on communique, quelqu'un envoie un message, quelqu'un reçoit le message, puis dans le milieu, il y a le moyen de communication, puis dans le moyen de communication, souvent, il y a du bruit. Et le bruit, c'est souvent, on parle du téléphone arabe, c'est ce qui va déformer le message entre l'émetteur et le récepteur, ce qui fait que quand on communique, ce qui sera au bout, c'est pas toujours ce qu'on veut communiquer. Et généralement, plus on a de moyens de communiquer, ben, il faut que ces outils-là soient reproduisent très fidèlement ce qu'on essaie de communiquer, ou alors qu'ils viennent avec cette espèce de mise en garde que peut-être que le message qu'on reçoit, c'est pas celui qui initialement devait être, on voulait l'envoyer à 100%. Et ça prend cette espèce de jeu-là pour créer des systèmes de communication qui sont fonctionnels. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des systèmes de communication qui ne sont pas fonctionnels parce que ça crée de la désinformation. Ça crée une surabondance de certains trucs au détriment d'autres choses. Par exemple, quand on parle de GAFAM, les services de streaming ne sont pas équilibrés. Ils privilégient certains styles de films, certains styles de musique, certains styles de courant de pensée. Donc, cette compréhension des systèmes de communication va être nécessaire parce que sinon, effectivement, ça va s'en aller dans toutes les directions. Mais encore une fois, c'est un outil. Il faut juste apprendre à l'utiliser comme il faut.
Oui, tout à fait. Un des grands penseurs de l'univers de la technologie, vous connaissez peut-être John Linear, j'espère que je prononce son nom correctement, un ancien de la tech qui était Silicon Valley dans les 80, même peut-être fin 70, a signé un livre intitulé « 10 arguments en faveur de supprimer vos comptes de médias sociaux », je traduis. Comment concevez-vous nos relations directes avec les médias sociaux? Devrions-nous les retirer de nos vies, un peu comme le suggère Linear?
Ben, c'est une bonne question. On pourrait certainement se déconnecter de Facebook, de X, des très grandes plateformes sociales et ne pas trop s'en sentir mal. Cela dit, le fait qu'ils existent, ça répondait à un besoin quand ils sont nés, qui était de se mettre en réseau, nécessairement, c'est comme ça que ça s'appelle, avec des gens qu'on avait peut-être perdu de vue, qui étaient peut-être proches de nous et pas tant, ou en tout cas, bref, de créer ces réseaux-là et de les rendre plus accessibles. Ce qu'on voit se créer à l'ombre un peu de ces géants-là, ce sont des réseaux sociaux qui, et là ça va sonner un peu cliché, mais qui ne sont pas 100% obnubilés par le profit à tout prix, donc qui vont créer vraiment des systèmes de communication où le bénéfice, dans le fond, de la communication va renforcer cet esprit de collectivité, l'esprit de communauté, plutôt que de diviser, comme le font les réseaux actuels. La notion de viral, de viralité, la notion de scroller, le doom scrolling, l'espèce de déchirement éternel qu'on fait, l'addiction des écrans, des réseaux sociaux qui fait qu'on est toujours à y revenir et qu'on en met toujours plus, c'est pas inhérent aux réseaux sociaux, c'est inhérent au modèle appliqué par Facebook et aux entreprises qui, cotées en bourse, devaient générer sans cesse de plus de profits, devaient donc pousser de plus en plus de pubs, donc devaient clairement créer des impressions de plus en plus nombreuses et créer une spirale. Au début de ces choses-là, on parlait en anglais, gamification. On rendait comme un jeu. C'est-à-dire qu'on utilisait des mécanismes psychologiques pour créer une dépendance et un goût de revenir sans cesse à cette plateforme-là, au-delà du rationnel. Donc, vraiment, on a créé des systèmes-là qui sont moins des réseaux sociaux que des machines à développer de la dépendance. Et ça, c'est un problème. Ça, il ne faut pas toucher à ça. Il faudrait s'en défaire le plus possible. Maintenant, la partie réseau social de cette plateforme-là, on peut quand même créer des groupes. On peut quand même faire des choses plus étroites, s'isoler un peu de tout ce qui est le plus négatif et avoir des communications saines entre certaines personnes dans la mesure où on a confiance. Et cette application-là, on commence à l'avoir émergée dans des réseaux sociaux régionaux, indépendants, à but non lucratif dans la plupart des cas. Et dans ces situations-là, ce qu'on voit, on le voit aux États-Unis, on commence à en parler au Québec, ça renforce cette petite communauté, ça renforce cette petite collectivité et ça fait que les voisins, au lieu de se cacher, de se terrer dans leur sous-sol et de s'envoyer des bêtises par les réseaux sociaux, sortent et vont s'entraider entre eux. Donc, il y a moyen de créer des applications comme ça qui ont un bénéfice, qui ont un aspect positif. Évidemment, il faut juste trouver le modèle ou en tout cas, il faut l'appliquer. On commence à avoir des idées sur comment déjouer peut-être les côtés plus négatifs de ces applications-là. Mais c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, il faut juste trouver la bonne plateforme, peut-être le bon réseau, pour justement éviter de tomber dans le piège et de tomber dans ce qui devient plus négatif, c'est la toxicité et tout le reste.
Mais que Facebook et Twitter, par exemple, je vais dire LinkedIn, je pense que LinkedIn, c'est peut-être moins un problème, là, mais à l'origine, n'avait pas ces bonnes intentions-là, dans le sens où c'était conçu pour simplement connecter les gens. Il n'y avait pas nécessairement de notion de profit immédiate d'impliquer dans la pensée qui allait autour de la création de ces choses-là. Je pense au début, c'était assez idéalisé comme façon de faire et au final, ils se sont transformés dans des plateformes qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez des exemples des plateformes que vous avez mentionnées qui sont peut-être à but non lucratif, qui sont moins corrosives que Twitter et Facebook?
Ben, c'est les réseaux sociaux souvent régionaux. Il y en a un qui me vient à l'esprit, il est au Vermont. Ça s'appelle le Front Porch Forum. C'est un modèle qui... C'est un réseau social, mais la première chose qu'il faut faire, il faut entrer son adresse postale, son adresse civique. Il faut donner son vrai nom. Donc, ça enlève le cas de faux compte, ou en tout cas, ça minimise les cas de faux compte ou de compte automatisé, parce qu'en partant avec une adresse, on met quand même son identifiant sur la table. Donc, c'est dur d'être anonyme dans ces cas-là. Donc, c'est dur après ça de dire des bêtises et de s'en sortir sans se faire dire « Hey, c'est toi qui as dit l'affaire qui n'a pas de sens ». Ça, c'est un gros truc. Ils ont aussi un modérateur qui vérifie les publications avant qu'elles soient publiées. Donc, ça crée aussi cette espèce de filtre. On dit souvent qu'il faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, là, quand on est en situation émotionnelle. Ben, c'est un peu ça. Le modérateur, c'est l'équivalent numérique, dans le fond, de ça, où cette personne dit « Ben, es-tu sûr que tu voulais écrire ça quand ça, quand ça dévie un peu du gros bon sens? » Donc, ça normalise la conversation. Des choses qui sont automatisées beaucoup sur Facebook en ce moment et qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Il y a des publications, des fois, qui sont retirées, on ne sait pas pourquoi. Des publications qui restent et qu'on ne comprend pas non plus pourquoi. Mais ce sont des systèmes automatiques qui font ça d'abord et ensuite, il y a des humains plus loin dans la chaîne qui passent très haut niveau pour vérifier. Mais ce mécanisme-là n'est pas présent. C'était pas un problème au début parce que Facebook, au début, ils n'avaient pas la pression d'être à ce point-là rentable et de régénérer plus de profits tous les trimestres. Et ils avaient surtout comme défi d'attirer les gens vers un modèle qui n'était pas celui qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que Facebook, au départ, c'était un gros lieu de rencontre, une grosse place publique numérique. Et là, les gens chez Facebook ne voulaient pas perdre l'audience qu'ils avaient. Et là, il a fallu qu'ils fassent un modèle qui était un petit peu différent pour ressembler à Snapchat, ensuite pour ressembler à Instagram, ensuite pour ressembler à TikTok. Donc, c'est un réseau social qui a évolué en fonction de la concurrence d'une façon qui donne aujourd'hui une espèce de courte pointe un peu pêle-mêle de d'autres réseaux sociaux qui doivent ultimement générer des revenus. Donc, c'est plus compliqué. Twitter, au départ, c'était l'équivalent des SMS quand ils ont lancé dans les premiers temps. Ils expliquaient, nous, ce qu'on veut, c'est comme une espèce de service public d'SMS qui n'est pas basé sur le cellulaire, donc qui se trouve sur Internet. Donc, on limitait à 140 caractères parce que les textos, c'était ça à l'époque sur les téléphones cellulaires. Mais on peut suivre d'autres comptes et on peut se faire un réseau de gens avec qui on parle à l'échelle de façon très courte comme ça. Puis ça a évolué pour devenir un outil plus médiatique où on pouvait partager des liens avec avec les mots-clics et ces choses-là. Et quand on s'est rendu compte que tout d'un coup, ça devenait un outil de communication médiatique, même politique, ben là, il a fallu jouer, c'était difficile parce qu'il a fallu que ces entreprises-là décident s'ils étaient des entreprises médiatiques ou pas. Ce qui a l'air banal, mais quand une entreprise médiatique, tout d'un coup, tu dois respecter un code de déontologie, comme les médias, les vrais médias, les médias traditionnels doivent respecter certaines normes pour ne pas affirmer de choses diffamatoires, de fausseté, et ainsi de suite. Et Facebook et Twitter, à l'époque, s'obstinaient. Sont allés devant le Congrès aux États-Unis pour dire « Nous ne sommes pas des entreprises médiatiques parce qu'on ne veut pas être assujettis à ces normes-là. » Tout ce qu'ils voulaient, c'est du contenu généré par les utilisateurs pour générer des profits. Et c'est là où ça s'est tordu un peu. Twitter a beaucoup de misère ensuite à modérer parce qu'il y a eu une avalanche de faux comptes qui renforçait ces chambres d'écho pas toujours positives. A vendu à Elon Musk, qui était peut-être la pire transaction de l'histoire des technologies numériques parce que Twitter voulait pas vendre à Musk, puis Musk voulait pas l'acheter, mais il s'était pris comme les pieds dans la transaction. Bref, ça s'est réglé. Et surtout là, Musk,
qui était à peu près de 40 milliards, apparemment, c'était tout fait très surévalué.
44 milliards, ça vaut aucun bon sens. Puis là, Musk avait son idée, mais il a aussi ses vues politiques. Puis là, il a comme un peu tordu encore plus le réseau, parce que c'est le premier à écrire des choses sur son réseau qui sont pas souvent très vérifiables. Donc, il faut... Disons qu'il a perdu son lustre sur le réseau là, avec les changements qu'il a apportés récemment. Et l'engagement a baissé. Et
il est revenu aussi.
Ben oui, c'est ça. Ben, l'entreprise comme telle a évidemment souffert de tout ça. Mais c'est au niveau de la communication publique, au niveau de l'influence de X maintenant sur la communication en société et tout le reste. Elle a beaucoup plus là. C'est plus un réseau aussi influent que ça l'était.
Ben, on a parlé de réglementation. Est-ce possible de réglementer de façon efficace les développements technologiques, spécifiquement l'intelligence artificielle? On a parlé, j'ai mentionné le Yosha Benjo qui avait lancé un appel à un moratoire. Toute évidence, c'est pas arrivé. Bon, l'Europe a passé le. Je n'ai que le terme anglais, le GDPR, il y a quelques années.
Non, j'ai connu, oui.
Ouais, pour protéger les données personnelles. Ceci dit, aujourd'hui, ça a un impact, toujours que ça a un impact, mais à quel point on peut vraiment réglementer des technologies qui j'ai envie de dire, évoluent plus vite que nous-mêmes?
Bien, c'est sûr que les lois sont à la traîne de l'évolution technologique, de l'innovation. C'est un peu normal. On essaie quelque chose, et là, après ça, ben, comment on peut faire pour pas s'assurer que c'est pas dangereux, dans le fond? Le RGPD a apporté quand même un certain nettoyage, même si c'est pas entier, puis était moins apparent chez nous, mais sur la gestion des données par les entreprises numériques. La loi sur les renseignements personnels au Québec a été renforcée il y a un an et demi pour devenir un peu comme le RGPD, mais c'est un processus qui va se faire, qui s'étend jusqu'en 2025. Donc, c'est pas encore vraiment applicable. Et tout ça prend du temps. Le RGPD, ça fait presque 10 ans, je pense. Et les premiers cas sont judiciarisés et ainsi de suite. La jurisprudence, tout ça, c'est fait il y a seulement 2-3 ans, donc c'est relativement nouveau. Ça va prendre le même temps avec la loi québécoise, c'est-à-dire que la loi exige des entreprises qui ont des sites web et ainsi de suite qui accumulent de l'information sur les utilisateurs d'être très transparents sur l'utilisation qu'ils font ensuite de ces renseignements-là. Les utilisateurs peuvent demander de faire disparaître les données qui les concernent de ces sites-là. Mais toujours est-il que ça, c'est la théorie, la pratique, c'est est-ce qu'ils vont le faire, comment on peut savoir, est-ce que ces entreprises qui ne le font pas, on peut les poursuivre et quels sont les dommages. C'est encore à déterminer, donc c'est extrêmement naissant. Est-ce que ce serait le fun, et puis ça serait peut-être pas une bonne idée dans l'absolu, mais si on avait des systèmes d'encadrement qui arrivaient en place plus rapidement, ou en tout cas presque au même rythme que l'innovation, c'est sûr que ce serait pas mauvais, mais en même temps, on a tendance à considérer le numérique comme ne faisant pas partie de la vraie vie. T'sais. On dit qu'on a des lois pour encadrer les propos diffamatoires en public, mais apparemment, ça ne concerne pas l'Internet. Alors que normalement, ça fait partie de la même chose. Donc, peut-être aussi que revoir des cadres législatifs qui étaient conçus, qui sont apparemment se limitent à ne pas toucher Internet, pour inclure Internet ou les communications ou les outils numériques, ce serait déjà un bon pas en avant. Là, mais je ne sais pas si... Est-ce qu'on va y arriver un jour? Je ne sais pas. Mais
il y a la crainte de freiner l'innovation par trop de réglementation.
C'est toujours ce qu'on avance hein, quand on veut faire des lois qui veulent enlever le négatif, mais pas empêcher le positif. Donc, cet équilibre-là est toujours difficile. Ça dépend si c'est bénéfique pour qui aussi. L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est bénéfique pour tout le monde en ce moment? Seulement pour les gens qui ont accès et c'est pas encore tout le monde. Donc, il y a certainement des situations là où il va falloir aussi s'assurer que les bénéfices sont accessibles par tous. Il est encore très tôt pour réellement le voir comment on peut encadrer ça de cette façon-là. C'est un sacré défi de dire, bien, innover, mais soyez responsable. T'sais. Briser les choses, mais pas trop. Ça va être certainement le défi de gens qui vont vouloir. On va toujours essayer de régler ce problème-là et ça fera jaser encore pour les 10 prochaines années, sans doute. Mais c'est pas, il n'y a pas de réponse claire à ça. Encadrer l'intelligence artificielle, ce serait facile de dire ben, tout ce qui est application d'IA devrait être signé d'une façon qui permette de toujours trouver la source ou la personne responsable derrière cette technologie-là. Ce serait, à mon avis, la meilleure chose à faire. Mais techniquement, on dit que c'est faisable. Mais en même temps, il y a toujours des petits comiques qui vont détourner, qui vont contourner ces règles-là. Donc, dans l'absolu, oui, il faut encadrer les technologies, mais il faut accepter aussi qu'il y aura toujours des débordements parce qu'on ne peut pas tout encadrer. Il y a toujours des gens qui vont faire des choses dans l'ombre et ces gens-là vont tout faire pour contourner la loi.
Les entreprises de la Big Tech à Silicon Valley sont-elles devenues si grosses qu'on ne peut plus s'en passer dans les films? Est-ce que nos économies maintenant sont tellement imbriquées dans les services et technologies développés par ces grandes entreprises qu'on ne pourrait plus vraiment s'imaginer, ou du moins ça demanderait une période de transition extrêmement douloureuse, gérer l'économie comme on l'entend aujourd'hui?
Bien, c'est sûr que les entreprises technologiques américaines sont très grosses. Elles sont, je pense que 8 des 10 ou 12 plus grandes entreprises en bourse sont des compagnies technologiques aux États-Unis en ce moment, alors qu'il y a 25-30 ans, c'est des sociétés énergétiques, des pétrolières surtout, puis quelques banques. Donc, ça, c'est un changement qui est peut-être pour le mieux parce que les pétrolières font plus partie du problème que de la solution de ces jours-ci. Le problème qu'on a, c'est que si on se concentre sur, par exemple, les GAFAM, on oublie que les Chinois sont en train d'arriver à fond de train avec des entreprises encore plus grosses. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on morcelle les GAFAM? Est-ce qu'on morcelle Google, Amazon, Apple, Facebook? Et on crée des entreprises spécialisées dans des créneaux qui vont avoir de la misère à rivaliser avec des entreprises étrangères qui sont redevables d'un gouvernement qui ne respecte pas toujours l'état de droit, tel qu'on le conçoit ici dans les pays occidentaux. Là, on tombe dans autre chose que dans l'économique, on tombe dans le politique et à la limite dans le philosophique ou dans l'éthique, en tout cas. Et on se demande, on n'a pas encore la réponse à ça. Historiquement, la rivalité Occident-Chine s'est toujours soldée, ou en tout cas dans les derniers temps, d'un point de vue économique, c'est généralement soldé à la faveur de l'Occident. C'est-à-dire qu'on créait des ententes où ce qui se faisait en Chine et qui faisait la transition vers chez nous, ça faisait au bénéfice d'entreprises occidentales. Apple est un bel exemple. Les constructeurs automobiles qui craignent la Chine en ce moment, c'est un bel exemple parce qu'ils ne sont pas capables d'accoter la capacité de production des entreprises chinoises. Mais s'ils pouvaient utiliser des composants chinois dans leurs véhicules, ils les vendraient ici puis ils seraient très heureux. En fait, tout le monde le serait, mais c'est pas comme ça que la Chine veut faire les choses cette fois-ci. Et c'est là où ça devient discutable. Est-ce qu'on doit avoir des champions économiques gigantesques pour rivaliser avec des économies émergentes et explosives comme celle de la Chine? La question est ouverte, là. Récemment, cette semaine ou la semaine dernière, il y avait une rumeur à l'effet qu'Intel et Qualcomm pouvaient fusionner pour créer un champion des puces américains qui se regardaient rivaliser avec les compagnies taïwanaises, les compagnies étrangères, ainsi de suite. Ce qui aurait été impensable il y a 10 ans, là, Intel, il y a 10 ans, c'était, on ne pouvait pas toucher à ça. Mais là, tu ne coup, pouf, tu dis, la concurrence chinoise fait que ces deux entreprises-là, qui sont des petits géants à leur façon, ne sont peut-être pas les géants absolus qu'on imaginait avant. Donc, j'ai l'impression là-dessus que le fameux marché va finir par décider à notre place. Certainement que si ça ne se fait pas aux États-Unis ou si ça ne se décide pas ici en Amérique du Nord, en Europe, on est en train vraiment de s'attaquer à la question en forçant les entreprises comme Apple, Google et Amazon à ouvrir leur plateforme pour que d'autres entreprises puissent s'embarquer. Et peut-être que c'est drôle parce que l'Europe se positionne un peu comme une espèce de milieu là, entre les différents extrêmes. Avec une solution du genre, on ne va pas vous démanteler, mais on va vous demander quand même de laisser rentrer d'autres entreprises dans vos niches. Et c'est peut-être ce modèle-là qui va finir par émerger comme le modèle qui a le plus de sens, là, où les entreprises qui créent des environnements qui ont beaucoup de succès devront faire de la place à d'autres entreprises dans ces environnements-là pour créer un équilibre.
J'écoutais l'entretien entre Joe Rogan et Peter Thiel. Peter Thiel, pour ceux qui ne connaissent pas, est un investisseur dans les technologies à Silicon Valley de 20 ou 30 ans. C'est un des premiers investisseurs Facebook, notamment. C'est un des grands noms, si on peut dire, à Silicon Valley. Joe Rogan a posé la question à Peter Thiel. Dans 5 ans, à quoi va ressembler l'intelligence artificielle? Et Peter Thiel a dit, la réponse honnête, c'est que j'en ai aucune idée. Ceci dit, je vous pose quand même une question. Quel sera l'impact et à quoi va ressembler l'intelligence artificielle dans 5, 10 ans, si vous voulez que nous encore plus loin?
Si les gens qui la financent à coups de milliards ne savent pas à quoi ça va ressembler, c'est dur de se lancer. Cela dit, ce qu'on comprend, parce qu'on peut juste se baser sur ce qu'on sait, n'est-ce pas? Et ce que quand je dis les Sam Altman de ce monde et les gens qui sont vraiment les mains dans la pâte, l'espèce de d'utopie, de rêve éveillé là, de l'intelligence artificielle, c'est cette super intelligence, là, c'est en anglais la AGI, l'intelligence généraliste. Donc, cette espèce de cerveau numérique qui va te dire comment déboucher ton évier, donc qui peut être un plombier, qui peut être un électricien, qui peut être un comptable et qui a réponse à tout, basé sur ce qu'ils ont collecté comme information et qui est capable de la contextualiser selon tes besoins. T'as telle place dans telle situation est un problème avec tel outil, voici comment le réparer ou voici quelle solution à ton problème. Voici ce qu'il reste dans ton frigo, quelle recette faire pour bien consommer ou bien utiliser tes aliments. C'est vers ça qu'on espère se rendre. Ça, c'est la théorie. D'ici 10 ans, j'imagine qu'on va vouloir pousser vers ça, entre autres choses. Est-ce qu'on va s'y rendre? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on va arriver à atteindre un outil? Je veux dire, en ce moment, on le voit avec les outils généralistes, pas généralistes, mais les outils génératifs, que les dérapages sont fréquents. On appelle ça des hallucinations parce qu'on est poli. En fond, c'est des faussetés, littéralement.
Oui, c'est ça.
Ben oui, voilà. De mettre de la colle, à, je sais plus quoi, dans son fromage à pizza pour la rendre plus luisante. Je veux dire, c'est pas... C'était un conseil de Gemini, l'IA de Google, il y a un petit bout de temps. Donc, on n'aura jamais, je pense, cet outil 100% magique et parfait. Mais c'est certainement ça qui entraîne l'effort en ce moment d'entreprises comme OpenAI et la plupart des plus grands géants de développement de ces applications-là. Donc, une des plus grosses tendances, sans dire toute l'intelligence artificielle va ressembler à ça dans 5 ans, mais peut-être qu'une des tendances, c'est celle-là de pousser vers ça. Cette espèce de super intelligence, et évidemment, ça va venir avec des outils de, et ça, on le voit aussi, mais des outils, parce que un autre truc qui est fort, c'est la reconnaissance d'images. Donc, tout ce qui permet d'identifier des objets, des gens sur des images, que ce soit des photos, des vidéos, des trucs en direct aussi, des systèmes de surveillance, entre autres. Donc, on risque de voir des systèmes automatiques peut-être remplacer des outils, tu sais, les billets pour rentrer à des places, les passeports pour voyager, des objets d'identification comme ça risquent d'être de plus en plus remplacés. Donc, ces outils ou ces façons de s'identifier risquent d'être remplacés par des systèmes automatisés basé sur la reconnaissance par image qui est de l'intelligence artificielle.
Ça pourrait être abusé. On peut penser au régime chinois qui, je pense, utilise déjà un système de reconnaissance faciale assez, disons, puissant et qu'au final, c'est que de la surveillance. On contrôle la population par la dissuasion en disant on va vous voir peu importe ce que vous faites.
J'ai rencontré il n'y a pas longtemps des gens, c'est justement une entreprise de Chine qui avait développé un système qui était comme le système de surveillance chinois. Je pense même si c'est pas eux qui ont fourni la technologie au gouvernement, mais eux, ils l'utilisaient pour dire « Voici maintenant, passez toute votre bibliothèque de photos de la maison dans notre système. On va identifier les gens sur vos photos pour les retracer ensuite. » Donc, ils essaient de rendre ça positif. Ça voulait dire « c'est pas si mal que ça, on peut s'en servir pour vos souvenirs. » Mais oui, il faut toujours demeurer vigilant parce que ces systèmes-là vont amener cette super surveillance. C'est pratiquement inévitable parce qu'ils sont déjà capables de le faire. Donc, les États autoritaires vont vouloir l'utiliser. Et ces entreprises de surveillance, les systèmes de surveillance vont vouloir s'adapter aussi. Donc, à plus petite échelle, on risque de voir ces systèmes-là voir après le jour de beaucoup, beaucoup dans les prochaines années.
Almekena, mot de la fin?
Je peux dire ceci. On disait en entrée de jeu, ça fait un petit bout de temps que je fais ce que je fais, j'écris sur la technologie. Puis, ce qui semblait, avant l'arrivée de l'iPhone, avant l'arrivée de l'Internet, même au début, en fait, de l'Internet, la bulle venait d'éclater, puis il y avait une fatigue. Et on disait, bof, les technologies, ça va passer. J'ai connu des gens qui, avant, en 99-2000, disaient, bof, l'Internet, c'est une mode, ça va passer ça aussi. Et c'était à l'époque, d'ailleurs, en 99, où le CRTC a dit « Nous, l'Internet, ça ne nous concerne pas. C'est pas un média de communication qu'on veut encadrer. Donc, si on laisse aller les choses, on est capable de se planter royalement. On se trompe souvent quand on fait des prédictions. Donc, je pense que le mot de la fin, c'est vraiment « Il n'y a pas de grande solution unique à des problèmes aussi complexes comme la technologie, comme l'évolution de l'intelligence artificielle, comme tout le reste. Mais il faut être vigilant, puis il faut agir au cas par cas, puis ça vient épuisant, ça vient soufflant, certainement, au fil du temps, mais ce n'est pas une raison pour arrêter, parce que c'est comme ça qu'on arrive avec des outils qui fonctionnent et qui font les choses qu'on veut qu'ils fassent, qui abusent pas ou qui n'exagèrent pas. Et c'est pas, il n'y a pas une solution unique, magique, qui va tout régler. Donc, il faut rester d'être vigilant. Et oui, s'il y a de plus en plus de systèmes qui apparaissent, s'il y a de plus en plus de technologies, on a l'impression qu'on a surabondance à un moment donné. On peut défaire ces choses-là en petits morceaux, puis ensuite arriver à résoudre les choses une chose à la fois, puis éventuellement on va y arriver sans doute. Mais à la base, c'est fou parce que l'intelligence artificielle, comme tout le reste, ça vient de bonnes intentions. Donc, on a tendance tout de suite à avoir le côté négatif. Mais il ne faut pas oublier non plus que la technologie, à la base, elle nous rend... On permet de voir plus loin, de marcher plus vite, de faire plein de choses plus efficacement. Donc, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, n'est-ce pas? Ce serait peut-être ça le mot de la fin. Voilà.
Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu fais bien dit. Alain Mekena, merci beaucoup.
Un plaisir.